Le bon filon.
Alors, on va replonger dans l'histoire. Alors, ici, avec ce roman graphique, c'est plus dans l'histoire de France, mais nos histoires sont intimement liées et c'est un sujet qui concerne tout le monde. C'est un sujet grave, c'est un sujet pas facile, parce que c'est un sujet qui divise aussi, qui a longtemps divisé, qui divise encore. Chacun a un peu son avis sur la question, mais là, on va être très factuel avec Marie Bardiot-Vaillante. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la scénariste de Bobigny 1972, et Bobigny 1972, c'est un immense procès qui a ouvert la voie en France à la, c'est ce qu'on dit, libéralisation de l'avortement, autorisation, dépénalisation,
légalisation.
Voilà, c'est différent par rapport à chez nous, où chez nous ça a été dépénalisé, en tout cas partiellement, mais bien plus tard, en 1990. Comment vous avez eu envie d'écrire cette histoire? Parce que vous l'avez écrite, hein. Après elle a été dessinée, et c'est un roman graphique magnifique, Bobigny 1972, mais vous êtes historienne et vous êtes intéressée à l'histoire, à cette histoire vrai ou quasi vrai? Est-ce que le personnage de Marie-Claire dans l'histoire est un vrai personnage?
Oui. Alors, vous me posez plusieurs questions à la fois.
Ah, c'est chiant,
je vois ça. Donc, c'est super. Moi, j'apprécie. Comment ça m'est venu? Déjà, moi, je suis scénariste depuis presque 15 ans maintenant. Ouais. Hein, c'est mon activité professionnelle. Donc, ouais. J'ai une formation d'historienne, mais je suis scénariste de bande dessinée et ça, j'y tiens, hein,
oui,
réellement.
Si j'ai bien vu dans votre biographie, vos scénarios, vos scénarios de bande dessinée ou de romans graphiques sont très lié à l'histoire récente.
Et à l'histoire, surtout à l'histoire de la justice, oui. Et à l'histoire politique, parce que c'est la seule chose qui m'intéresse. Moi, je m'interroge beaucoup sur ce qu'est la justice. Or, la justice, on ne peut pas la définir, mais donc je fonctionne un petit peu, je dirais, comme avec le négatif d'une photo. Qu'est-ce que moi, je considère comme étant injuste? Et bien, en 1972, accuser une jeune fille qui a été violée, la mettre en accusation avec possiblement, comme c'était un délit grave, une peine de prison qu'elle n'aurait pas eu, mais en tout cas une très très forte amende et mise au banc de la société et tout, c'est totalement injuste. Et il se trouve que je ne suis pas la seule à considérer ça, parce qu'en 1972, il y a eu vraiment beaucoup de gens qui considéraient qu'il n'était plus acceptable qu'il y ait cette pratique-là du droit, en fait, que ce droit était obsolète, de toute façon.
Oui, alors que c'était aussi un droit qui était décidé et exercé par des hommes sur des femmes, on le voit très bien dans l'histoire que vous racontez, et d'ailleurs l'avocate qui prend fait et cause pour cette jeune fille de 17 ans, hein, si je me souviens,
oui,
bon,
au moment du procès.
C'est Gisèle Halimi, qui est quand même une figure historique aussi, en France en tout cas, elle explique, ben voilà, mais vous êtes tous des hommes ici, qu'est-ce que vous avez à venir juger de la vie des femmes?
Absolument, mais c'est fondamental.
Il y a un homme là-dedans, enfin il y en a plusieurs, mais il y en a un que j'ai repéré tout de suite, c'est Michel Rocard.
Oui,
il y a un des personnages qui vient ouvrir la porte en disant faut qu'on ouvre un peu les yeux, quoi.
Il y a Rocard, il y a Monod, professeur Miliez, ça c'est intéressant parce que c'est un catholique pratiquant.
Oui, il le dit d'ailleurs dans le procès.
Il témoigne aussi de ça en tant que médecin et catholique pratiquant. Bon, il y a plusieurs hommes, mais c'est néanmoins un combat de femmes parce que c'est le droit des femmes. Vous parliez donc du droit. Le droit, en fait, il a été construit par des hommes et il s'applique à tous et à toutes. Jusqu'au début du XXe siècle, il n'y a pas de femme avocate. Jusqu'en 1946, il n'y a pas de femme magistrate. Mmh. 46, quoi. Enfin, c'est ultra tard.
Ouais.
Donc, les femmes dans les tribunaux, elles étaient soit accusées, soit de temps en temps témoins. Mais elles ont ces places-là.
Beaucoup de femmes qui se sont alliées, on va dire, qui ont fondé une association. Il y a Gisèle Halimi qui est la porte-parole, l'avocate qui va défendre cette femme, dont cette jeune fille, Marie-Claire. Il y a le manifeste des 343 aussi, avec beaucoup de personnalités qui viennent pour dire, alors c'est injuste parce que tout ça, c'est une justice de classe, que vous soyez pauvre et misérable, etc. Enfin voilà, on connaît la formule.
C'est absolument ça, c'est un livre qui parle de ce sujet-là, sur le fait qu'il y a des pratiques, même quand elles ne sont pas autorisées, donc l'avortement, hein, encore une fois, c'est pas parce qu'il y a une loi qui interdit l'avortement que les femmes ne se font pas avorter. Ça, c'est faux. Les femmes qui veulent avorter, elles se feront avorter.
Celles qui ont des sous vont à l'étranger,
elles trouvent
des docteurs, quoi.
Elles mettent leur vie en péril, surtout.
Oui.
Donc, c'est toujours le cas. Hein. Dans beaucoup de pays, il y a environ 50 000 femmes par an dans le monde qui meurent toujours d'un avortement illégal, clandestin, en tout cas, qui n'est pas
réalisé
pratiqué.
Dans des conditions déplorables.
Absolument.
Ouais.
Donc, ce que Halimi dit, c'est qu'effectivement, et elle fait venir la haute bourgeoisie de l'époque pour dire, est-ce que vous avez avorté? portée. Donc on voit Delphine Seyrig, on voit Madame Servan-Schreiber, etc. Et donc ces femmes-là disent oui, oui, bien sûr, j'ai avorté, mais moi, personne ne m'a poursuivie parce que moi, j'ai eu les moyens d'aller me faire avorter à l'étranger, de trouver un médecin, etc. Donc, Ali Milodi, elle est tout le temps en train de défendre les femmes prolétaires de conditions modestes, les Michel Chevalier, et elle s'adresse à tous ces hommes, donc au président, à l'avocat général, en leur disant, mais vous faites partie du problème, messieurs. Enfin, quand il demande, et le spéculum, vous l'avez mis dans la bouche.
Oui.
Mais c'est ce qui s'est produit, ouais. Cette question a été posée. Donc, ce sont des hommes qui sont en train de juger une jeune fille de 17 ans, mais qui ne savent même pas comment se fait un examen gynécologique.
Et pour autant, on voit bien qu'à travers le monde, il y a des endroits où c'est encore très fermé comme sujet, il y a des endroits où on fait marche arrière, comme aux États-Unis, comme on l'entendait en Russie aussi, où il y a un tel problème de dénatalité qu'on voulait mettre un grand coup de frein. Donc finalement, c'est peut-être pour ça que vous avez voulu écrire, c'est pour montrer que l'histoire peut se répéter ?
Alors, moi, en tant qu'historienne, j'estime que l'histoire ne sert qu'à une chose, c'est expliquer le présent. Et dans ce cadre précis, on a mis la citation de Simone de Beauvoir hein, sur le fait qu'il faut rester vigilante toute notre vie sur ce sujet-là, parce que autant...
C'est le quatrième de couverture, je pense.
L'IVG est un droit qui a été conquis, mais il n'est pas acquis.
On pouvait raccrocher ça aussi au mouvement MeToo, quelque part, et à la libération de la parole des femmes ces dernières années, parce que cette jeune fille, Marie-Claire, qui a été violée à l'âge de 17 ans, donc, qui se retrouve...
15 ans, elle avait.
Et qui se retrouve donc enceinte, et puis forcée d'avorter, par son choix, hein, je veux dire forcée, dans le sens pour pouvoir assumer sa propre vie. On lui dit aussi, pendant le procès, oui, mais... ça s'est passé il y a longtemps, pourquoi vous ne l'avez pas dit tout de suite ?
Mais parce qu'on...
Et c'est exactement le même débat que ce qu'on a eu ces dernières années, non ?
Bien sûr, c'est bien pour ça que c'est un sujet vraiment d'actualité. Toute la question de la libération de la parole, là aussi, hein, les victimes de violences sexuelles, nous savons très bien comme il est difficile d'en parler et qu'on va nous demander 10 milliards de preuves qu'effectivement on ne peut pas donner, hein, parce que s'il y a bien un crime, parce que c'est un crime de violer une femme, c'est quand même le crime où il n'y a pas de cadavre. Mmh. Donc c'est pas parole contre parole, parce qu'il est très difficile de prouver les faits. Bien sûr que c'est le sujet actuel et que tous ces hommes, encore une fois, dans la cour du tribunal, lui disent « Oui, mais enfin, vous n'en avez pas parlé, mais enfin, bon, voir comment on est reçu quand on parle, on nous demande de parler, mais quand on parle, on met en doute nos propos. » Donc là aussi, c'est la double peine et c'est compliqué.
Oui, et le fait aussi que, quand on a subi un traumatisme tel que celui-là, c'est pas évident de venir en parler tout de suite. C'est ce qui est expliqué aussi au tribunal, justement, pour expliquer pourquoi il se passe autant de temps entre les...
Bien sûr, et puis la prise de conscience aussi, la sidération. Enfin, des fois, il faut des dizaines d'années, évidemment. Enfin, tout ça, nous le savons maintenant. Enfin, c'est dans le débat public et moi, j'en suis très, très heureuse. Hein.
Et l'avantage du dessin ici aussi, c'est que ça transmet des émotions, évidemment.
Oui, c'est pour ça que je voulais absolument travailler avec Carole sur ce sujet-là, parce que je savais... à quel point on allait pouvoir...
On est touché oui, doublement par l'histoire, par ce qui est raconté et par le dessin.
Par le dessin, qu'elle allait pouvoir transmettre une émotion supplémentaire aux mots que moi j'allais coucher sur le papier, donc voilà, je suis vraiment...
Ça s'appelle Bobigny 1972, enfin 72 pour vous, donc. Hein. C'est paru chez Glénat, c'est Marie Bardiot-Vaillante qui signe le scénario et c'est Carole Morel qui signe le dessin. Merci beaucoup.
Merci à vous.